Vous écoutez
RMC.
RMC, 8h-9h.
Votre forme.
François Sorel.
Christian Requia.
C'était RMC, c'est le week-end des experts. Quel plaisir de vous retrouver chaque samedi et dimanche, demain dimanche, 3h d'auto avec Jean-Luc Moreau. De quoi je me mêle entre 6h et 7h. Et avant de retrouver tout à l'heure Raphaël Grabi pour la vie numérique, on va parler consoles de jeux, toutes ces nouvelles consoles qui arrivent pour cette fin d'année, la PlayStation 5, les nouvelles Xbox. Quels sont les jeux aussi qui valent le détour qu'on va peut-être offrir ou s'offrir pour Noël? On verra ça tout à l'heure, donc entre 9 et 10. Mais dans l'immédiat, il est à mes côtés, c'est Christian Requia, bien sûr. Bonjour Christian.
Quel bonheur d'être avec vous, François. Quel bonheur d'être avec vous, mesdames et messieurs les auditeurs. Nous allons aborder aujourd'hui un sujet très important dans un premier temps, et c'est la cryothérapie.
Oui, on va en parler dans un instant. Et puis notez que tout à l'heure, on essaiera de trouver des alternatives, à la fermeture des salles de sport, hein, Christian.
Alors, oui, nous avons la tristesse d'annoncer que les salles de sport seront fermées. Alors
comment rester en forme et pratiquer une activité physique régulière si on ne va plus à la salle de sport? Alors évidemment, on peut aller courir dehors, hein, mais il y a d'autres moyens, comme par exemple des coachs via Internet. Et on en parlera avec notre coach que nous aurons tout à l'heure. Et puis, vous nous direz si effectivement il y a un risque à faire du sport en salle comme ça. Est-ce que cette décision du gouvernement est pleine de bon sens ou pas, hein, Christian, vous nous donnerez votre avis.
Absolument.
Le 32-16, l'appli RMC Direct Studio, bien sûr, si vous voulez poser vos questions à notre docteur Christian Requia. Bienvenue à vous toutes et à vous tous. Il est 8h10 et on commence tout de suite par l'ordonnance de Christian.
RMC. Manger. Manger sain. Manger frais.
Manger les pommes.
C'est pas possible. Il faut au moins 8000.
L'ordonnance de Christian Requia.
Alors, moins 8000, ça fait beaucoup. Je pense que la cryothérapie, même si les températures descendent vraiment très très bas, on n'est pas à moins 8000. On est d'accord, hein, Christian. C'est Hibernatus.
Oui, c'est ça, Hibernatus. C'est autre chose. Alors, c'est le grand champion Morad Hamdouni qui a battu la semaine dernière le record de l'heure en faisant 20 km 772, le record de l'heure national, tout à fait remarquable. Il a en même temps battu.
En une heure, hein.
En une heure, 20 km 772. Je rends hommage à Morad.
Même pas en voiture.
C'est monsieur Morad Hamdouni qui m'a parlé la première fois il y a 3 ans de cryothérapie. Alors évidemment, ce qui est remarquable, c'est que ces sportifs de l'INSEP, ces grands sportifs, ce grand Morad Hamdouni est le seul à avoir fait ce chemin en battant le record d'Europe du 10 000 et du 5 000 en 24 heures. Et aujourd'hui, nous constatons que la cryothérapie, au-delà de ces sportifs de très haut niveau, est devenue, non pas une mode, mais cela commence enfin à s'intégrer dans, les activités bien-être de la population. Et je me souviens, quand j'étais médecin de Bernard Hinault, en novembre 1983, lors de ma nomination...
Vous étiez tout jeune médecin.
J'étais tout petit. J'avais 27 ans. Et bien, concrètement, dans le premier entraînement de Bernard Hinault, nous avions, avec Paul Köchli en montagne, une zone de chaud où on faisait, évidemment, ce qu'il fallait avec des douches chaudes, et puis tout de suite le froid. C'était pour moi une véritable sidération, et enfin ça revient. Et je me pose la question, pourquoi finalement cette mode ne vient que 25 ans plus tard ou 30 ans plus tard?
On va en parler avec notre invité qui est un spécialiste de la cryothérapie, mais on a toujours, depuis la nuit des temps, on sait que le chaud et le froid influent sur les muscles.
Hein. Absolument.
C'est vrai, quand on a certaines douleurs, parfois on se met de la glace, après une opération par exemple, et puis pour certains c'est le chaud qui fait du bien.
Oui,
c'est ça, hein.
Effectivement. Alors,
la différence d'ailleurs entre le chaud et le froid?
Ce que nous pouvons dire, c'est qu'après un entraînement sévère sur le plan sportif, ou après une journée difficile sur le plan professionnel ou social, eh bien, nous avons des contractures, on a des gènes, on a effectivement une incapacité à se détendre. Alors, question de François, ça fait quoi le chaud? Eh bien, le chaud vous détend, mais le chaud provoque une vasodilatation, mais ne provoque pas finalement une variation d'énergie en activité métabolique. Et le fait de faire chaud et froid permet finalement à des personnes habituées, à des personnes entraînées, à faire, je dirais, une capacité d'entraînement sportif. Cela dit, là, nous sommes en cryothérapie à température normale. Admettons que j'ai fait un entraînement aujourd'hui de 10 km en 3 sessions sur la piste. Eh bien, il y a 30 ans, on faisait une séance de récupération une heure, quand on était pro, une heure après, en trottinant, ou le lendemain. Aujourd'hui, cette séance de récupération peut se faire par la cryothérapie.
Bastien Boucher,
nous avons un
bonjour.
Invité.
Bonjour messieurs.
Vous êtes le cofondateur du pôle de cryothérapie de Reims. Merci d'être avec nous pour nous expliquer ce qu'est la cryothérapie. Est-ce que vous pouvez nous faire une petite présentation de la cryothérapie pour tous ceux qui ne connaîtraient pas?
Alors bien sûr, alors cryothérapie, ça englobe plusieurs activités. Chez Cryotera, dans notre franchise, nous on est spécialisé sur la cryothérapie corps entier. Donc l'idée c'est assez simple, on pénètre en petite tenue, donc en maillot de bain avec des protections, dans un sas à moins 85 ou moins 110 degrés, pendant 3 à 5 minutes. On va créer forcément un choc thermique, faire varier la température cutanée non interne. C'est important de savoir que en interne on a 37 degrés et on restera à 37 degrés. C'est strictement impossible d'attraper le rhume, de tomber malade quand on fait une séance de cryo. Le cerveau va capter cette variation de température cutanée, va essayer de protéger l'organisme, c'est ce qu'on appelle la thermorégulation. Et en réponse à ça, il y a des réflexes physiologiques qui vont se mettre en place, qui vont être porteurs dans trois grands domaines. Le sport, on en parlait, le bain froid, c'est l'ancêtre de la cryothérapie, tout le monde le faisait. Donc sur de la récup, est-ce qu'on va appeler de la prévention blessure. On travaille beaucoup en santé, non pas pour soigner, mais pour soulager les douleurs. Donc ça va de la petite tendinite à tout ce qui est des problèmes de lombalgie, au rhumatisme inflammatoire, aux douleurs chroniques. Et ensuite, on l'utilise énormément dans le bien-être, puisque le froid va permettre de stimuler la libération d'endorphines, de sérotonine et améliorer le sommeil.
Vous venez de dire 85 ou 110 degrés. Expliquez-nous pourquoi 85, pourquoi moins 110.
Alors moins 85 ou moins 110 degrés, alors c'est les machines qui existent aujourd'hui. Il faut savoir que la cryothérapie corps entier, tête incluse, et c'est important, a été créée en 78 par le docteur Yamauchi au Japon. Oui. Donc c'est pas d'hier. Et les tests ont montré finalement que dans ce laps de temps, cette exposition 3 à 5 minutes, ces températures de moins 85 à moins 110 degrés permettaient de créer un choc thermique bénéfique pour le corps et qui serait pas assez invasif pour entraîner des effets délétères.
Et François va me poser la question, mais à quoi sert la cryothérapie? Eh bien concrètement, ça provoque au niveau vasculaire un choc, parce que quand il fait froid, il y a une constriction générale au niveau du corps et vos micro-vaisseaux et vos vaisseaux sont contractés pour garder le noyau central à 37 degrés. Et quand vous sortez de là, il y a une puissante revascularisation et il y aurait un effet qui n'est encore pas expliqué minutieusement sur le plan immunitaire, avec une immense stimulation du système immunitaire à pouvoir exacerber la fonction immunitaire.
Et parce que le corps se retrouve un peu, en danger, mais disons dans une situation qui n'est pas forcément très agréable pour lui.
Pendant
4 minutes, oui. Bien sûr, mais ça doit peut-être créer une espèce de défense immunitaire. D'accord.
C'est un exercice physique sans faire d'effort.
Et en quoi, Bastien, c'est un intérêt pour les sportifs?
Alors, l'idée, c'est de stresser l'organisme. C'est-à-dire que le cerveau va avoir plein d'informations de ses capteurs, de ses thermorécepteurs, donc tous les capteurs qu'on a au niveau du derme. Forcément, il fait froid, il va vouloir se protéger. Les bras, les jambes, c'est pas vital pour nous aujourd'hui. Pour le cerveau, c'est le tronc central, c'est les organes vitaux qu'il va falloir protéger. Donc le sang va tout simplement délaisser les extrémités. On parle d'une vasoconstriction. Et à la sortie de la séance, le cerveau va être plutôt rassuré par la température ambiante. Ce qui est assez fou, c'est qu'en l'espace de 5 minutes, on va passer une température cutanée de 10 degrés à 30-35. Les vaisseaux sanguins se dilatent, le sang va revenir beaucoup plus fort et plus vite dans les extrémités. C'est comme ça qu'on oxygène les muscles, qu'on nettoie les déchets musculaires.
Et donc on récupère pour un sportif, on récupère plus vite,
c'est ça ? On parle d'une séance de cryothérapie, c'est 3 à 4 jours de récup passive. Donc pour vous donner l'exemple, si on fait une séance le lundi, sans récup actif, c'est-à-dire sans aller courir ou autre, on va être physiologiquement au même stade que le jeudi.
Est-ce que ça a un intérêt pour tous ceux qui ne font pas du sport de faire de la cryothérapie ?
Alors ça a été inventé encore une fois en rhumatologie, c'est-à-dire qu'à l'origine on s'est rendu compte que la cryothérapie pouvait stopper l'inflammation ou la réduire. Le sportif lui véhicule l'image et a un petit peu pris le monopole sur la cryo, mais c'est vraiment à l'origine un outil de santé qui va permettre déjà de créer un effet analgésique. Quand on a une bosse, on a un glaçon pour réduire cette inflammation, pour créer justement une analgésie temporaire. Et on s'est rendu compte au niveau des études scientifiques que lorsqu'on met en place des agressions répétées, on va réussir à stimuler le cerveau et libérer des hormones anti-inflammatoires et de ce fait obtenir un effet dans le temps sur les douleurs.
Donc des personnes qui ont des rhumatismes par exemple, ou des, de l'arthrite,
est-ce que l'équivalent,
ça fonctionne ?
Bien sûr.
C'est l'équivalent d'une activité physique régulière. Et ce que j'aimerais aborder, une autre approche, c'est de se dire que pour tous ceux qui n'ont pas la possibilité de faire une activité physique d'une heure ou deux, tous les deux, trois jours, une séance de ce type régulière est un entraînement. Un entraînement
ça équivaut
qui aura
à une séance de sport.
Ça, oui, bien sûr. Ça équivaut
même sans faire de sport.
Sans faire de sport. C'est-à-dire qu'au fond, c'est une activité qui dit au cerveau et au système endocrinien, il y a là, je me retrouve devant un travail à réaliser, je me retrouve devant une régulation à faire. Vous savez, c'est comme ces personnes, ces Bretons, qui ont aujourd'hui 75 ans, 85 ans, qui vont nager tous les jours, toute l'année, dans une eau à 18 degrés. Et moi, j'en vois ces Bretons, bah,
18,
sur les plages bretonnes.
18, vous êtes même
optimiste.
Gentils,
mais on fait ça depuis notre naissance. Et nous sommes le 31 décembre, ils vont nager. Ce sont des gens qui se sont habitués à un effort. Et pour eux, ça devient une nécessité. Et ça a l'effet d'une activité physique. Quand on fait une heure d'activité physique par jour, si pendant une semaine, pendant très très longtemps, si pendant une semaine on n'en fait pas, il y a un manque. Parce que cette stimulation est hormonale, et du coup, ce bien-être apporté par ces hormones ne sont plus là, et ces hormones n'étant plus là, le bien-être n'existe plus. Ce bien-être, c'est quoi? Ce sont des éléments qui vous mettent dans un apaisement, c'est un antidépresseur, et cet antidépresseur agit également sur la fonction immunitaire. Alors, j'aime pas trop la terminologie détoxification, ça n'existe pas. C'est un terme de Rick Azaray que j'honore aujourd'hui, mais concrètement, ça n'existe pas. C'est pas comme ça qu'il faut l'estimer. Il faut estimer qu'il y a un effet vasculaire, qu'il y a un effet effort métabolique et qu'il y a un effet sur la stimulation de la fonction immunitaire et de la régulation immunitaire.
Bastien, juste une question. Comment ça fonctionne concrètement? Je veux faire une séance de cryothérapie. J'arrive chez vous, enfin dans des centres spécifiques. Je rentre dans une espèce de bulle, c'est ça? Comment ça se passe?
Alors, dans les centres cryothérapie du réseau, en tout cas, on a mis en place, dans un premier temps, un accueil avec une revue des contre-indications. Tout le monde, malheureusement, ne peut pas faire de cryo, donc ça reste une minorité, une population avec des problématiques cardiaques. Par principe de précaution, on ne pourra pas les prendre en charge.
Oui, c'est un peu comme si on était en hypothermie, c'est ça? Enfin...
Il y a une notion un peu négative sur l'hypothermie. Là, ce qu'il faut bien noter, c'est qu'on reste sur du froid sec. C'est-à-dire qu'on parlait de l'eau à 18 degrés, c'est plus dur à supporter que de l'air à moins 110 degrés.
Ah oui, ah oui.
C'est pour ça que finalement, on se retrouve avec des populations. Hier, on avait par exemple un des grands sportifs qui est champion d'Europe du 110 mètres haies, qui est Rémois au Krebs de Reims, avec notre doyenne qui a 86 ans, qui vient pour de l'arthrose, et une jeune femme en fauteuil roulant. Donc c'est vrai qu'on a une population qui est très large, qui se côtoie, et l'idée, et ce qui est intéressant, c'est que le sportif va faire la même séance que la personne qui a des douleurs. Le besoin sera différent, la fréquence va être différente, mais c'est vraiment accessible à tous, sous réserve qu'on n'ait pas de contre-indication.
Donc on rentre dans une espèce de d'appareil, c'est
voilà,
ça?
Voilà, dans une chambre, dans une pièce.
Comme un mini-sauna, c'est ça?
Comme un sauna, au terme de dimension.
Sauf que c'est l'inverse, en termes de température.
C'est électrique, hein, on crée ce froid sec de manière électrique.
D'accord.
On a donc un maillot de bain pour les femmes, short caleçon pour les hommes.
Okay.
On donne l'ensemble de la tenue.
On ne met pas de doudoune là pour...
Vous donnez l'ensemble de la tenue, c'est-à-dire...
Alors, sauf le maillot de bain, on va donner chaussettes, chaussures, gants, bonnet et masque.
Ah, il faut un bonnet quand même.
On va protéger toutes les extrémités du corps.
Et oui, parce que comme il fait moins 110, c'est ça?
Exactement.
Afin d'éviter que les oreilles tombent.
Oui, ça c'est embêtant.
Le sang va quitter toutes les extrémités du corps, le nez en fait partie, les oreilles, les mains, donc c'est des zones qu'on va protéger.
On rentre, et alors, qu'est-ce qu'on ressent quand on se fait pour la première fois une séance de cryothérapie?
Alors, faut le vivre pour le comprendre, faut le vivre pour pouvoir l'expliquer.
Quand vous l'avez vécu 200 fois, expliquez-nous.
Alors, je vais faire mon maximum. Alors, effectivement, on va sentir le froid. Mais c'est un froid qui est très supportable, qui va saisir. Le but, c'est de créer un choc thermique. Donc, forcément, il y a plus agréable. Un petit sauna, ça se fait sans doute plus facilement. On va essayer de libérer les épaules. C'est important pour pas créer de contraction musculaire et de...
D'accord.
Justement pouvoir
donc on peut s'activer un petit peu dans le...
On a vraiment de l'autonomie, on peut marcher un petit peu, on va essayer de libérer les épaules. Certaines personnes restent très statiques, d'autres restent en mouvement, libre à chacun de trouver son comportement.
D'accord.
Et on va sentir au fur et à mesure de la séance des picotements. Alors c'est pas douloureux, mais forcément, étant donné qu'on va passer une température de peau de 30-35 degrés à 10 degrés, ben, l'ensemble du corps va réagir, on va sentir des picotements s'installer sur l'ensemble.
Et comme le dit Morad Hamdouni, après une séance comme ça, on est bien.
C'est-à-dire que c'est pas une partie de plaisir. C'est pas du plaisir comme un hammam ou un sauna où là on prend du plaisir. C'est-à-dire qu'il y a un stress, d'accord. Ça dure combien de temps une séance de cryothérapie?
Suivant les températures, on va jouer de 3 à 5 minutes au niveau du temps d'exposition.
Oh, ça va, Christian, vous dites ça va. Vous l'avez fait, vous, déjà?
Je vais le faire.
C'est vrai, d'accord.
Je vais en faire quelques-unes.
Alors, moi, je veux bien aller avec vous et chronométrer.
Oui. Ah, ben oui.
Moi, je serai de l'autre côté de la vitre. Oui. Je vous regarderai et je mettrai le chrono.
Cela étant dit.
Moi, je veux bien faire ça.
Vous m'avez bien précisé que ça ne dépassait pas les 4-5 minutes. Et là, évidemment, au-delà de 5 minutes, on a d'autres effets pervers qui peuvent arriver. Donc il y a un vrai
contrôle. Il y a l'effet congélation,
bien sûr.
Il y a l'effet hibernatus.
On pourrait créer une petite lésion au niveau du derme, un abaissement trop important de la température, une brûlure. On pourrait faire varier la température interne, ça c'est important de le savoir. On reste à 37 pendant toute l'exposition. Si on faisait 5 à 6 minutes, la température pourrait descendre, on pourrait attraper l'homme, tomber malade.
C'est-à-dire qu'au bout des 5 minutes... Donc le corps ne pourra plus supporter arriver à 37 degrés, donc la température va baisser, là on peut attraper des rhumes, des choses comme ça.
Et donc mon ordonnance aurait tendance à dire, si vous n'êtes pas au bord de mer en Bretagne avec une eau à 18 degrés, vous les courageux,
l'été, l'eau à 18 degrés, les courageux,
oui, ou 11 degrés en hiver,
voilà, je préfère.
Ces courageux qui ont grand sportif ou grand âge en allant nager tous les jours, ces Bretons courageux ou ces habitants de Saint-Jean courageux qui vont nager le 1er janvier, sont des personnes qui ont une activité physique, qui ont un moral, qui ont une densité, une volonté remarquable. Eh bien, c'est sûr que la cryothérapie sera beaucoup plus facile. Bien gérée, une ou à deux fois par mois, c'est un élément que je prescris.
Bastien, ça coûte combien une séance de cryothérapie ?
Alors, on va être sur une tarification, en tout cas pour le réseau Cryothéra, entre 25 et 42€ la séance. Ce qui est un prix globalement.
Pourquoi 25, pourquoi 42?
Il y a des formules, c'est-à-dire qu'on a effectivement des abonnés.
Plus on en prend, moins ça coûte cher en fait.
Globalement, oui, là-dessus, effectivement.
C'est ça. Très bien. Merci beaucoup, Bastien. Rappelons que vous êtes cofondateur du pôle de cryothérapie de Reims.
C'est ça, alors du fondateur du réseau Cryothéra, c'est un jeune réseau de franchise.
D'accord.
Avec un centre sur donc Reims qui était le premier, Poitiers, Dijon et Valence. Une dizaine d'ouvertures en 2021. Et un pôle de recherche aussi qui fonctionne plutôt bien, puisqu'on est l'entité française qui publie le plus d'études scientifiques en France.
Parfait, merci beaucoup et merci d'être venu dans nos studios.
Merci à vous.
8h25, Christian. Alors on a parlé de cryothérapie, on va parler dans un instant de la fermeture des salles de sport. C'est vrai que c'est un problème pour tous ceux qui avaient leurs petites habitudes de séances de sport.
Et nous allons devoir
trouver autre chose.
Les convaincre de continuer l'activité physique.
Et on en parle dans un instant.
RMC, magnifique. Vous faites du sport ?
Même pas.
8h-9h.
Allez, à mon top, on va aller chercher bien bas.
Et step touch, pied flex.
À mon top, on va aller chercher un pépito. Top, là, on est bon.
Votre forme.
Salut, Lou. Prends un tapis.
Ouais.
Tiens. François Sorel.
On y va. Ok, on va chercher nos orteils.
On va chercher nos orteils.
Allez, on donne tout, on lâche rien. Non, excusez-moi, non, on donne tout, on lâche rien.
Christian Requia.
Christian Requia, c'est Rocky. Vous êtes prêt, Christian ?
Oh oui.
Est-ce que vous êtes prêt pour une séance d'entraînement à la radio ?
Oui.
Alors écoutez, vous êtes en chemise, vous êtes très élégant aujourd'hui. Vous n'avez pas la tenue sportive.
Je peux faire un gainage ventral à 20 minutes.
Ah non,
si
mais c'est fatigant. Je me souviens, il y a 2 ans pour le Grand Rush, vous m'aviez fait un gainage là de 20 minutes, alors que moi j'étais en train de parler, c'est incroyable. Alors que moi, au bout d'une minute trente, le gainage commence à fatiguer.
C'est la preuve, comme disait notre invité il y a quelques secondes, c'est quand on commence à faire l'activité physique, c'est une question d'entraînement, le corps humain est nos limites, sans limites. Et l'excellent coach Pfefferberg nous disait il y a quelques mois qu'effectivement, cette façon de faire du sport au quotidien nous permet d'augmenter nos capacités intellectuelles, c'est un ascenseur neuronal, c'est un ascenseur métabolique qui évite les maladies vasculaires et les diabètes. Donc, surtout, et c'est pour ça, François, que vous m'avez commandé ce sujet que j'ai accepté immédiatement, parce que quand on parle de sport,
je l'ai commandé par téléphone portable.
En quelques millièmes de seconde, j'ai réagi, évidemment, vous me connaissez, François.
Mais parce que c'est l'actualité, et forcément, je suis persuadé que parmi tous celles et ceux qui nous écoutent, ils se posent la question, est-ce que les salles de sport sont vectrices de virus ?
Alors, autant je suis suspicieux sur ces chiffres où on dit que on a 3 à 4 fois plus de contamination dans un café qu'ailleurs. Dans un bus, j'aimerais bien savoir combien de contamination on a. Faut être sérieux.
La différence, c'est que dans le bus, on a le masque. Dans le café, on n'a pas.
Je suis pas en train de défendre, mais il faut faire le parallèle. J'ai des doutes scientifiques. Cela dit, le sujet du jour, ce sont les salles. Et les salles. Alors, il y a des salles qui peuvent être aérées. Et dans ces cas-là, on n'est pas obligé de fermer. Et je vois bien dans cette salle de Vincennes, à l'excellent club de tennis de Vincennes, au CAV, eh bien, concrètement, on a une salle aérée. Donc effectivement, on peut avoir 4-5 sportifs dans la salle sans problème, parce qu'on est tous à 3 mètres l'un de l'autre, il n'y a pas de problème. Donc ça, c'était aussi une façon de dire, on ne ferme pas les salles, mais on prend des rendez-vous comme dans les piscines, et puis on n'a pas plus de personnes par mètre carré, et si la salle est aérée, il n'y a aucun problème. Ensuite, la salle, il faut désinfecter chaque appareil.
Bien sûr.
Et je vois par exemple avec Technogym, qui est une excellente machine, et bien concrètement, il y a l'objectif de chaque sportif, lorsqu'il quitte la salle,
mais ça a toujours été le cas. Enfin, moi, je suis un adepte de salle, et c'est vrai qu'il y a toujours eu des pipsites, des lingettes.
Aujourd'hui, plus
on nettoie sa machine après l'avoir utilisée.
Avant et après, et comme ça, on est certain. Et puis, il y a des gens dans la salle qui contrôlent le tout, bien évidemment.
Mais c'est vrai que le virus est à l'aise dans une salle de sport.
Ben oui, parce que finalement, il y a des expirations. On expire, on transpire. Il y a des ébullitions muqueuses, buccales, etc. Donc, je dirais que la décision me paraît louable. Maintenant, le vrai souci, c'est que nous avons déjà subi un confinement. Et ce confinement de salle fait qu'aujourd'hui, eh bien, nous risquons de faire comme au mois de février, mars, avril, d'arrêter l'activité physique sous prétexte qu'il n'y a plus de salle. Donc, on est là aujourd'hui pour vous aider à promouvoir pour vous le sport en dehors des salles avec tous les moyens possibles.
Christophe Ruel est avec nous, Christian, au téléphone. Bonjour Christophe.
Bonjour Christophe.
Bonjour François, bonjour Christian, bonjour à tous.
Alors Christophe, vous êtes coach sportif ancien décathlonien et on voulait avoir votre avis parce que vous êtes vraiment dans les deux mondes. Hein. Vous avez donné des cours dans des salles, mais vous êtes depuis très longtemps, parce que moi je vous suis on se connaît depuis pas mal d'années, vous êtes sur les réseaux sociaux, vous avez été l'un des tout premiers, moi je me souviens, à être sur Instagram, etc., sur Facebook, à proposer des vidéos et des conseils. Déjà, un mot sur cette décision de fermer les salles de sport, qu'est-ce que vous en pensez ?
Bon, j'ai pas malheureusement la capacité scientifique de pouvoir répondre pertinemment. Après, c'est triste forcément pour le secteur économique, parce que là, comme beaucoup de secteurs, on souffre énormément. Après, effectivement, pour un côté sanitaire et le côté préventif, je ne sais pas du tout si c'est une bonne chose ou pas. Mais je sais que le secteur, en tout cas, de la forme souffre. Heureusement, il y a des solutions qui s'offrent pour pouvoir pratiquer, comme le disait Christian aujourd'hui. Mais c'est vrai que c'est un moment très difficile pour le sport.
Alors justement, il faut trouver des moyens de substitution et vous en proposez notamment parce que vous êtes présent. Donc, je le disais, vous avez votre site, hein, chrisruel.com. Vous avez un groupe Facebook, vous avez une chaîne YouTube aussi, Chris Ruel, etc., sur tous les réseaux. Qu'est-ce que vous proposez sur vos réseaux, justement, pour que les gens puissent s'activer ?
Alors, c'est des choses qui sont quand même relativement récentes. Hein. C'est des choses qui ont démarré pendant le confinement. C'est pas des choses que je faisais avant. Ça faisait très longtemps que je me disais, il faut que je le fasse, mais je le faisais pas. Effectivement, ça a démarré pendant le premier confinement. On a créé ni plus ni moins des rassemblements au départ qui étaient pour répondre à la demande de mes élèves en présentiel et de pouvoir avoir une continuité. Et puis, la mayonnaise a pris. Et du coup, aujourd'hui, on propose, alors c'est pas du quotidien, mais c'est 5 séances par semaine, des cours qui s'offrent à tous. Et je dis bien à tous parce qu'on offre des options pour que tout le monde puisse pratiquer dans la proximité, dans la facilité de ce que l'on a au quotidien, chez soi, sans aucune contrainte.
Moi, ce qui me plaît dans votre concept, c'est qu'en fait, on peut faire du sport partout, avec très peu de moyens. Le seul moyen qu'il faut, c'est de la volonté. Et sans doute, en étant stimulé par le concept que vous déployez, eh bien, ça va aider les personnes qui n'auront plus de salle de sport pendant quelques semaines, ou le moins de semaines possible, bien sûr. Quelques semaines, eh bien, surtout, n'arrêtez pas, parce que si ça dure 3 semaines sans activité physique, c'est terrible, parce qu'il faut quasiment un mois et demi pour revenir à
au niveau.
Après,
on peut aller courir. On peut sortir, on peut aller faire un petit jogging, etc. Christophe, vous conseillez, vous, par exemple, le petit jogging comme ça, en solo ?
Alors, sous couvert médical, hein, ne pas se lancer dans une activité sans avoir fait un bilan au préalable, ça c'est la première des choses. Après, effectivement, ce premier confinement a été, pour certains, un déclencheur de la mise au sport, donc ça a été très très bien. Après, l'avantage de ces séances, par contre, et la course à pied, c'est une chose, parce que ça permet de s'aérer, de travailler sur les fonctions cardio-respiratoires, de travailler un peu le tonus général du corps. Il y avait aussi des personnes qui se sont découvertes à travers, justement, ces cours en ligne, des objectifs complémentaires, des objectifs transversaux qui sont plus, pour le coup, liés à la santé, puisqu'on va travailler sur la mobilité, on va travailler sur la flexibilité, on va travailler sur la posture, sur la respiration. Vous voyez, c'est des choses transversales. Donc, on va même pas parler de sport. Donc, du coup, ça déculpabilise, ça rassure aussi dans l'approche. Et puis, finalement, une fois qu'on les a captés, eh ben, la démarche, elle est telle que les gens sont investis, ils ont senti les bienfaits. Et du coup, next step, ils vont comme ça faire des choses un petit peu plus concrètes.
Ouais.
Et effectivement, la course à pied, d'autres exercices type renforcement musculaire un peu plus soutenu. Enfin, voilà. Donc, ça a été un bon déclencheur pour toutes ces choses-là.
On va arriver à des exemples que vous allez nous donner tout à l'heure, mais je puis vous dire que, par exemple, Stéphane Robineau au CAV au tennis nous dit c'est pas la peine de faire une heure de tennis par jour pour évoluer en tennis. Il suffirait de faire une heure tous les deux jours ou tous les trois jours, mais entre-temps, faire du renforcement musculaire, faire de l'échelle pour l'équilibre, renforcer la ceinture, les épaules, renforcer les avant-bras. Et effectivement, quand on va en séance de tennis après, on est beaucoup plus fort en tennis. Et les grands champions de tennis aujourd'hui ne font plus que du tennis. Ils font pas seulement du tennis, ils font surtout du renforcement musculaire.
Christophe, qu'est-ce que vous proposez justement à vos communautés comme exercice? Par exemple, on est débutant.
Alors moi, je propose un planning sur la semaine avec différents types de cours à chaque fois. Et pour chaque séance, quelle que soit la séance, il y a trois options. C'est-à-dire qu'il y a des options qui s'adressent aux personnes qui débutent et qui n'ont jamais fait de sport. Il y a des options pour les gens qui pratiquent de façon occasionnel, et puis pour ceux qui veulent se challenger, des options un peu plus difficiles. Ça veut dire que pour un même cours, trois types de personnes peuvent pratiquer et suivre la même séance, ce qui crée du lien en plus, ça crée de la cohésion, une dynamique collective, et ça c'est très chouette.
Christophe, on revient dans un instant avec Christian. Je pense que on a encore deux trois questions à vous poser. Voilà, et puis surtout si vous avez des questions pour notre coach qui est avec nous au téléphone, n'hésitez pas. Le 32-16, l'appli RMC Direct Studio. On fait une toute petite pause.
RMC jusqu'à 9h.
Votre forme.
François Sorel.
Christian Recchia.
Comment faire du sport à la maison alors que les salles de sport vont fermer dans pas mal de grandes villes de France? On en parle avec Christian Recchia, bien sûr, et Christophe Ruel, coach sportif qu'on peut retrouver sur votre site, hein, Christophe, chrisruel.com.
J'avais une petite question.
Oui, allez-y,
je vous en prie.
Alors, non, juste, c'est vrai que pour beaucoup d'entre nous, on n'a pas forcément de grands appartements, beaucoup de place pour faire du sport, sauf si on sort, bien sûr. Christophe, malgré tout, si on a 2-3 mètres carrés, on peut faire de l'exercice à la maison?
Oui, ça suffit amplement, à condition effectivement de pousser le tapis, de faire attention à ce qu'il n'y ait rien de dangereux autour. Mais avec 2-3 mètres carrés, on a largement de quoi pratiquer.
Alors un exemple, donnez-nous des astuces et des encouragements.
Pour faire un...
Oui, dans 5 mètres carrés, que peut-on faire?
Ah mais tout, on peut tout
alors,
faire.
Alors allons-y.
parce que je vais pas refaire une gym à l'ancienne, mais non, c'est vraiment des exercices très simples. Bon, déjà, en fonction de l'objectif, si on veut travailler sur la mobilité, par exemple, ce soir, je vais faire un travail, une séance de mobilité et de force, on va se mettre en position fente, ni plus ni moins, je vais leur demander, effectivement, selon le niveau, soit de garder des pieds parallèles, par exemple, s'ils ont des problèmes de genoux, s'ils peuvent le faire, de descendre en position fente, c'est-à-dire un pied devant, un pied derrière, maintenir un dos bien placé, prendre conscience effectivement des muscles posturaux qui sont les muscles profonds pour essayer déjà d'ouvrir la cage thoracique et mieux respirer. Du coup, pendant ce temps-là, le temps passe, donc vous êtes déjà en train de tenir la fente plus longuement, donc vous faites un travail d'endurance musculaire.
Oui.
Ensuite, on va travailler sur la conscience du corps, prendre conscience de son transverse, donc là encore, ce sont les abdominaux profonds, très importants. Ensuite, on va faire une prise de conscience sur le périnée, et puis à partir de là, vont s'en décliner une multitude de petites consignes de placement, de ressenti, de contrôle, en levant les bras au-dessus de la tête, en prenant le temps de placer une respiration. Et puis au bout de 30 secondes, 45 secondes, on va passer une seconde séquence, et puis voilà, ainsi de suite, ça va s'enchaîner. Et encore une fois, en fonction des niveaux, avec des options et des consignes de ressenti différentes.
Et tous ceux qui nous écoutent et qui ont envie de vous voir, on peut vous retrouver où, Christophe?
Alors, principalement sur le groupe, c'est un groupe, hein, sur Facebook, Chris Ruel, ou alors effectivement sur la chaîne YouTube Christophe Ruel.
On a Mehdi au 32-16. Bonjour Mehdi.
Oui, bonjour, vous m'entendez?
On vous entend parfaitement. Très bien,
ouais, Mehdi. Bonjour,
quel bonheur de vous avoir Mehdi.
Merci docteur, là j'écoutais votre émission, elle est très intéressante. Donc en fait, moi je voulais dire, alors effectivement je suis très très sportif. Si vous voulez, alors effectivement les salles de sport ferment, donc c'est vrai que c'est un dommage. Après, je pense que pour autant, il y a quand même moyen de s'entretenir. Alors, vous parliez de course à pied tout à l'heure, effectivement, bon, c'est la base, on va dire. Mais il y a des exercices de type renforcement musculaire ou poids du corps que je pense qu'on peut pratiquer soit chez soi, soit à l'extérieur. et aussi tout ce qui est entraînement cardiovasculaire, pompe à la corde à sauter, ou en méthode Tabata, 30 secondes d'effort, 30 secondes de repos, et on peut se faire des sessions faciles de 45 minutes, 1 heure, et avoir un entraînement aussi efficace qu'une heure de course à pied, ou une heure et demie en salle de sport, en musculation, quoi, par exemple. Donc, moi, par rapport à ça, c'est ce que je pratique quand il y a eu le confinement, ou même aujourd'hui, je suis abonné dans une salle de sport, mais je fais pas que ça. Je veux dire, à côté, il y a des journées où je vais m'entraîner à l'extérieur, uniquement en poids du corps ou en renforcement musculaire à l'aide de, d'une corde à sauter, d'élastique, etc., etc., quoi. Et je voulais savoir ce que vous en pensez.
Oui, alors, j'apprécie beaucoup votre remarque, parce que même si on ne peut pas aller jusqu'à 45 minutes de 30 secondes d'activité, 30 secondes de repos, ce qui est beaucoup, on peut déjà demander à nos auditeurs de faire 15 minutes. Et ça, c'est je vais vous dire, c'est déjà superbe. Mais toujours, mais
15 minutes d'activité suffisent.
C'est parfait.
Oui. Et Christophe, vous êtes d'accord?
Encore une fois, ça dépend de l'objectif, mais déjà, c'est très bien. En termes de prévention santé, c'est parfait.
Voilà, c'est-à-dire qu'on est dans une base où ça nous donne un filet de secours, mais surtout, mesdames et messieurs, recherchez le relâchement. Quand vous êtes en train de courir, abaissez vos épaules. Quand vous êtes en train de faire une activité qui sollicite le dos, il faut que le dos soit droit. Quand vous êtes en activité sur les cuisses, attention au bassin, à ne pas provoquer des tensions au niveau du psoas qui peut provoquer des douleurs au niveau du dos. Et les ostéos vous disent souvent que c'est le psoas qui est atteint quand on a ce genre d'activité mal réalisée. Ce que je peux redouter quand les personnes font seules l'activité physique, c'est que souvent, elles hypertrophient, entre guillemets, un groupe musculaire plutôt qu'un autre. Et l'avantage des cours avec Christophe Ruel et d'autres, eh bien, concrètement, c'est que vous êtes accompagné et vous êtes en harmonie. Donc, du coup, travaillez sur l'ensemble des groupes musculaires. Vous commencez par les cervicales, par les épaules, les ceintures scapulaires, par les muscles du dos. S'il vous plaît, mesdames et messieurs, les parents, regardez le dos de vos enfants. C'est un évanouissement musculaire quand les enfants sont ados. Je ne comprends pas l'éducation nationale. Moi qui fais la promotion des professeurs d'éducation physique de l'éducation nationale, je les honore en permanence. S'il vous plaît, messieurs et mesdames les professeurs d'éducation physique, le dos de vos élèves est très très mal structuré. On n'y pense pas assez. On fait pas ce qu'il faut. Et ce sont véritablement les voiles de sécurité de nos citoyens.
Merci à Mehdi d'avoir témoigné, et puis merci aussi à Christophe Ruel, donc qui était avec nous ce matin. Merci à tous les deux. Nous avons Nicolas avec nous au 32-16. Bonjour Nicolas.
Bonjour Nicolas.
Bonjour François, bonjour Christian.
Bienvenue Nicolas.
Bienvenue, bonjour.
Christian Requia vous écoute religieusement.
Alors en fait, j'aurais voulu avoir des conseils sur les bains d'eau froide après une activité sportive. Surtout, est-ce que c'est un risque ou pas lorsqu'on a de l'hypertension?
Alors, quel âge avez-vous?
43 ans.
43 ans, donc vous êtes très jeune. Alors, évidemment, vous faites de l'activité physique. Quel type d'activité physique?
Je fais un peu de course à pied à petit niveau, et puis je fais aussi tout ce qui est randonnée, on va dire.
D'accord. Quelle est votre taille et votre poids, si je puis me permettre? Nous sommes entre
1m4. 20 pour 110 kilos.
D'accord. Alors, qui vous a incité, qui a suscité en vous l'éveil du bain d'eau froide? C'est culturel, c'est familial, c'est un copain, c'est un entraîneur, c'est quoi? C'est qui?
C'est tombé dans des infos lorsque je sortais sur Internet, des choses qu'on lit sur les activités sportives, la récupération, le bien-être en général, et puis je m'y suis intéressé en fait.
Alors, ce que j'ai,
j'aurais en termes de récupération, c'est bénéfique.
Donc, ah oui, j'aurais à vous dire d'abord que oui, en termes de récupération, c'est bénéfique. Sachez qu'il y a une technique, et nous avons reçu d'ailleurs les initiateurs il y a quelques semaines dans cette émission. La cryothérapie démontre une capacité à justement gérer la récupération et les soucis vasculaires liés à l'activité physique. Alors, pour l'hypertension, vous n'avez aucune inquiétude. Moi, j'aurais plutôt une inquiétude pour l'hypertension lorsque vous faites de l'activité physique, c'est-à-dire ne pas dépasser votre fréquence cardiaque au-delà de 140-150, donc c'est pas la peine, vous n'êtes pas là pour faire un championnat du monde. Hein.
Non, c'est
l'idée, c'est être bien, être relâché, être, je dirais, capable, après la première séance d'entraînement, de se dire, je vais en refaire demain parce que c'est un immense plaisir. Et sachez, mesdames et messieurs, que le plaisir de prendre une douche Attention, après un effort, la douche doit être prise au moins 20 minutes après et pas tout de suite. Il faut, comme le disait Philippe Leclerc, et comme le dit Philippe Leclerc, qui est un excellent préparateur, eh bien, il faut qu'il y ait un temps de latence entre le moment de récupération, entre l'effort et la douche. Mmh. Et quand vous faites une douche chaude, passez par une douche froide. Alors, ça peut surprendre comme ça, mais quel bonheur quand on est capable de faire cela. C'est remarquable, mais il ne faut pas que ce soit trop long. Donc, j'aimerais que vous essayiez la cryothérapie qui dure 3 minutes 50 à 4 minutes 20.
C'est mieux que le bain
oui,
d'eau froide.
C'est mieux parce que c'est contrôlé.
Quels sont les risques concrètement? Le fait que Nicolas se...
Le risque à l'âge de Nicolas, c'est le risque quasiment extrêmement nul. Quoi. C'est-à-dire que c'est pas plus que prendre une douche chaude. Mais je dirais qu'essayer la cryothérapie, parce que ce plan vasculaire, c'est conduit, c'est maîtrisé, il y a des protocoles, et là, vous verrez, vous en passerez plus, parce que c'est vraiment remarquable.
Nicolas, vous avez du courage.
Combien de temps on peut rester maximum?
En cryothérapie, pas plus de 4 minutes, et dans un bain, pas plus de 3 minutes.
D'accord.
C'est pas nécessaire de faire plus, hein. Alors, vous pouvez essayer de faire des bains à 0 degré, parce que nous voyons à Saint-Jean-de-Luz, le jour de Noël et le jour de l'an, des gens qui sont à 10 degrés dans l'eau. Et puis, il y a des gens, Poutine, en Russie, va dans de l'eau à quelques degrés, hein. Mais ça, c'est de la grande communication.
Qu'est-ce qu'il est fort, ce Poutine.
Vraiment. Alors, je dirais que c'est 3 minutes, pas plus.
Merci beaucoup pour votre appel.
Et bravo pour cette intervention.
Allez, Fatima nous attend au 32-16. Bonjour, Fatima.
Bonjour, messieurs.
Bonjour. Fatima de l'Hérault, de Pérols exactement.
C'est ça, tout à fait.
Et on vous écoute.
Bon, alors moi je voulais avoir un petit avis de votre part. j'ai pas couru depuis plusieurs années. Là, je me suis mise à faire de la course à pied.
Bravo. Vous avez trouvé la motivation, Fatima, c'est bien.
Voilà, donc je me suis mise à courir, mais je crois que j'ai été un peu trop vite. J'ai commencé une première fois en faisant 7 kilomètres.
C'est beaucoup, la première fois. C'est beaucoup. Oui, c'est beaucoup. Et ensuite, pardon, je vous ai interrompu, veuillez m'excuser.
Il n'y a pas de souci. Donc, j'ai attendu 4 jours, je crois, puis je suis repartie faire 7 kilomètres. Et là, le lendemain, je commençais à avoir de grosses douleurs au niveau du genou.
Eh oui.
Et je ne savais pas
que ça. C'est-à-dire que vous avez couru 7 kilomètres, lendemain, vous avez refait 7 kilomètres.
Non. 3 jours après.
D'accord.
Ce qui se passe pour toute personne, parce que votre question est très importante et je suis très heureux de vous entendre. D'abord, quand on n'a pas fait de sport depuis fort longtemps, on est resté en vie. On a continué à manger. On a continué à vivre, mais on a eu, par absence d'activité physique, une fonte musculaire partout, au niveau des cuisses notamment, et tous les muscles qui entourent l'articulation du genou. Et ce qu'il faut faire quand on veut recommencer à courir, c'est recommencer à faire du vélo. Recommencer à muscler ses cuisses, recommencer à faire... Par exemple, la première journée, vous auriez dû commencer à faire des montées d'escaliers, même 10 escaliers à la fois. Il y a des escaliers quelque part autour de chez vous ou dans votre ville.
10 escaliers à la fois.
Oui, ou 20, 30. L'idée, c'est monter des escaliers
à la fois,
pour...
C'est pas d'un coup,
C'est monter en pas de course des escaliers et faire 20 minutes d'escalier en décontraction, monter, descendre. Et ça permet déjà de faire une activité de musculation.
De réveiller les muscles.
Et il faut faire ça pendant 15 jours, 3 semaines, 3 fois par semaine. Et c'est seulement au bout de 3 semaines, au bout d'une dizaine de séances de remusculation de vos cuisses, il y a une autre façon très simple de remuscler ses cuisses, c'est faire du vélo. Et effectivement, il faudrait que vous alterniez 2 séances de vélo pour une séance de course, et vous allez voir qu'au bout de 6 mois, vous allez pouvoir recourir tout à fait normalement. Et souvent, on a des auditeurs, on a des citoyens français, femmes et hommes, quel que soit l'âge d'ailleurs, que vous ayez 20 ans ou que vous ayez 50 ans, il faut toujours muscler les cuisses. Et je prendrai simplement l'image de Morad Hamdouni, qui est quand même champion d'Europe du 10 000 mètres et vice-champion d'Europe du 5 000 mètres, qui est arrivé troisième au marathon de Paris il y a tout simplement 6 mois. Eh bien, il me dit, Christian, après 3 séances de course où il fait 49 secondes aux 400 mètres et il fait 25 400 mètres, eh bien, il fait des très fortes séances de musculation en faisant du vélo et en faisant des musculations de cuisses. Donc, même eux, à leur niveau, eh bien, le vélo est un acte important pour pouvoir supporter
la course. Christian, est-ce qu'on, quel conseil conseil on peut donner à Fatima?
Le conseil, c'est ce que je viens de dire, c'est-à-dire faire des montées d'escalier, faire du vélo, 3 séances de vélo pour une séance de course, et après la séance de course, une séance de repos, et on recommence 3 séances de vélo pour une séance de course.
Moi, si je puis me permettre aussi, est-ce que vous étiez bien chaussée? Parce que j'ai eu le même problème que vous, et mon problème au genou s'est résolu parce que je me suis acheté une bonne paire de chaussures de course.
Bon, moi j'avais une bonne paire de chaussures de course, mais bon, le souci c'est que là, après avoir couru avec toutes les douleurs que j'ai eues, j'ai été faire un examen, on me trouve une fissure du ménisque.
Mais oui, forcément, parce que vos muscles n'étaient pas présents pour vous contenir sur le plateau tibial, et c'est votre ménisque qui a souffert. Et c'est
donc
pour
là,
ça
il faut
que
du repos quand
votre question est importante,
ça, hein.
Du repos ou une toute petite intervention pour sceller la fissure, pour enlever la corne méniscale qui a été fissurée, si c'est possible. Mais c'est le chirurgien qui décidera. Et à partir de là, madame, votre question est salvatrice, parce qu'elle a permis à de nombreuses personnes d'éviter de faire vos erreurs. Mais attention, n'arrêtez pas. Vous allez vous réparer et il faut recommencer avec le principe que je vous ai expliqué.
Et Christian, on va terminer par votre coup de gueule concernant justement cette épidémie de Covid avec certaines opérations qui vont être déprogrammées. Vous vouliez en dire un mot?
Oui, alors c'est pas un coup de gueule, c'est un coup de sang. Parce que concrètement, lors du premier confinement déjà, pendant la mobilisation générale, où j'ai quasiment fait tous les jours une intervention, une émission à la radio, nous disions très régulièrement dans les semaines de confinement que nous avons aujourd'hui fait une erreur, c'est de supprimer des interventions chirurgicales. Et je peux témoigner avec Pascal Leprince, professeur, chef de service à l'Institut du Cœur en chirurgie, c'est qu'il y a des personnes qui ont subi des infarctus pendant le confinement et qui sont aujourd'hui en greffe cardiaque, en attente de greffe cardiaque, parce que ce sont des personnes qui n'ont pas pu bénéficier d'intervention ou qui ont eu peur de venir à l'hôpital. Donc surtout, mesdames et messieurs de l'ARS, surtout faites une communication claire où aujourd'hui, la Covid n'est pas aussi dramatique que pour l'instant qu'en février, mars, avril, et que pour toutes les interventions ou pour toute consultation, eh bien, elles ne sont pas supprimées, qu'il faut continuer à faire tous les examens et toutes les consultations nécessaires pour les pathologies que vous avez ou que vous ressentez. Et je m'adresse aussi aux généralistes pour qu'ils passent ce message.
Merci beaucoup, Christian. On se retrouve
grand bonheur. Raphaël est avec nous.
On va retrouver la météo, les infos, et on va enchaîner avec la vie numérique.